Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de monter des meubles en kit. Vous savez, vous arrivez dans les fameux magasins suédois là, où on vous donne des colis et c'est à vous de vous débrouiller chez vous. Et en fait, nous, on en a monté dernièrement. Et avec Rachel, on s'est dit surtout qu'il faut au moins trois cerveaux pour comprendre. En fait, en tout cas, nous, on les monte toujours à deux. Comme ça, il n'y a jamais de risque. Personnellement, tout seul, je suis pas sûr d'y arriver. Pas sûr d'y arriver, en tout cas, sans m'énerver. Parce qu'en fait, même si c'est très bien fait, ces notices, c'est un petit peu comme un contrat que IKEA fait avec ses clients, dans le but donc de que le client soit content et qu'il ait au bout d'un moment son meuble construit chez lui. Mais des fois, je m'interroge un petit peu pour savoir s'ils ont prévu aussi le repos qu'il devrait y avoir avec, la paix, le côté paisible qui devrait accompagner le montage des meubles. Et en fait, on s'aperçoit vite quand même que c'est très bien fait, que si on respecte vraiment l'ordre dans lequel on doit monter les meubles, eh ben on fait ça tranquillement, sans s'énerver et sans casser le meuble. C'est un petit peu ça, et puis aussi l'ambiance actuelle. Vous savez qu'on est en vacances scolaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis instit, et donc je suis un des favorisés de la société française qui a 2 mois de vacances. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du repos. Vous trouvez que c'est un petit peu osé de ma part, mais je me trouvais bien placé pour le faire. Et en fait, le repos, la signification du repos, la définition, je veux dire, du dictionnaire, c'est cessation de travail, d'activité, cessation d'exercice et de mouvement. Et après ça, il y a d'autres synonymes qui viennent, qui sont la quiétude, le calme, le délassement, l'immobilité. Et c'est vrai que si je vous dis repos comme ça, en fait, ça évoque plusieurs choses. Et d'emblée, on pense tout de suite aux meilleures choses. Par exemple, on pense au congé. On peut songer aussi au jour. Vous savez, moi, j'ai partie de la dernière génération qui a fait l'armée. Et je me rappelle des jours accordés, des jours de congé qui sont accordés par les autorités. Donc voilà, c'est des connotations assez agréables. On peut penser aussi au farniente, genre voilà, le repos, c'est sinon rien faire. Pensez également au sommeil réparateur. Pensez aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au soulagement, le relâchement, voilà ce que ça évoque. Le délassement, finalement, ça évoque aussi un peu la belle vie, quoi. Après ça, il y a une connotation un peu moins plaisante quand, par exemple, c'est une obligation de se reposer. Par exemple, on a une fracture, on a quelque chose, on a des problèmes de santé, il faut se reposer. Bon, c'est déjà un peu moins rigolo. Et enfin, bon, il y a aussi cette connotation qui fait partie de la vie, qui est relativement négative, lorsque le repos évoque la mort. Dans les villes, la rue du repos, c'est souvent la rue du cimetière. Et puis on dit en français comme en anglais, repose en paix. En anglais, on dit rest in peace. Et ce thème, en fait, semble quand même relativement éloigné de notre quotidien, parce que c'est vrai que le repos, dans notre société, c'est pas quelque chose qu'on prend quand on a envie, c'est légiféré, on ne fait pas ce qu'on veut. Et il suffit simplement de constater, d'observer un peu le monde du travail pour voir que le repos, c'est un droit, c'est vrai, mais c'est mal vu. C'est une perte de temps à certains niveaux, certaines entreprises en tout cas. C'est mal vu, on perd du temps, on perd de l'argent. Et on adapte l'homme au profit. Et on voit les usines qui tournent en permanence, les 3-8 par exemple. On voit aussi les ouvertures des centres commerciaux, des magasins. Par exemple, les jours fériés, les jours de repos sont peu à peu repoussés, voire éliminés, gommés, quoi. Parfois au mépris justement de certaines commémorations comme le 11 novembre, le 8 mai, où les magasins ouvrent alors que ces jours de repos ont été fixés justement pour qu'on libère notre esprit, pour se diriger vers diriger nos pensées vers la mémoire des gens qui ont combattu. D'ailleurs, la façon d'honorer par exemple l'absence ou les victimes par exemple d'attentats ou de choses, c'est qu'en fait on chôme ce jour-là, on s'arrête pour justement se libérer, penser à ces personnes. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, le repos a des vertus thérapeutiques et bienfaisantes. J'ai dit tout à l'heure pour les fractures, c'est vrai que une fracture, c'est qu'il n'y a que le repos qui peut garantir son rétablissement. Notre corps aussi, par exemple, lorsque l'on digère, on digère beaucoup mieux. La digestion est faite pour se faire dans un moment calme. Et puis aussi, par exemple, quand on observe la nature, on s'aperçoit vite que, apparemment, dans une terre où il ne se passe rien, il se passe quand même beaucoup de choses. La terre se repose, elle se prépare, et on voit les saisons qui nous le montrent. Et puis après ça aussi, pour les enfants, comme je vous l'ai dit, je suis instit, c'est vrai qu'on voit bien les enfants, le sommeil, le repos est fondamental pour eux, déjà, ne serait-ce que pour grandir, et ensuite pour apprendre. Un enfant qui ne dort pas ne peut pas être performant dans son apprentissage. Et ensuite, pour finir sur le repos, on s'aperçoit vite aussi que bon, bah, le manque de repos est souvent l'origine de dépressions nerveuses et que pour les soigner, justement, on met les gens en repos, quitte à utiliser des médicaments. Et également les psychothérapies où on voit que le repos favorise, justement, le repos du subconscient favorise l'émergence de choses qui viennent au conscient et qui favorisent la guérison. Alors, dans la Bible, en fait, il y a plusieurs versets évidemment qui parlent du repos. En fait, je vous en propose un. C'est un passage qui se trouve dans Hébreux. Donc, l'épître aux Hébreux, c'est après Philémon, c'est un petit peu loin dans le Nouveau Testament pour ceux qui connaissent leur Bible. Donc, je vous propose la lecture donc, de Hébreux, c'est le chapitre 4. On lira des versets 1 à 11 et je lirai dans la version français courant. Hébreux 4, versets 1 à 11. On s'attachera seulement à une partie de ce passage, mais on est obligé de tout lire pour mieux comprendre le contexte. Hébreux 4, versets 1 à 11. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'occasion d'y entrer. Car nous avons reçu la parole de Dieu tout comme ceux qui étaient dans le désert. Il fait donc allusion donc, au peuple d'Israël. Or, ils ont entendu ce message sans aucun profit, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous croyons que nous allons rentrer dans ce repos dont Dieu a dit « Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du septième jour. Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Il est dit aussi dans le texte ci-dessus, « Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la parole de Dieu ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils ont refusé d'obéir. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David, dans le passage déjà cité au-dessus. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. N'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Alors, je vous propose en fait trois façons de découvrir un petit peu ce repos. En premier lieu, on verra qu'est-ce que c'est le repos selon Dieu, qu'est-ce que c'est le repos de Dieu, à quoi correspond-il exactement. En quoi le repos, en deuxièmement, en quoi le repos de Dieu doit-il être une réalité dans notre vie de chrétien. Et ensuite, comment entrer dans ce repos, quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher d'y entrer. Alors pour fixer le contexte, en fait, l'auteur de l'Épître fait un parallèle donc, entre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, donc d'un côté, qui était guidé par Moïse dans le désert, puis par Josué, pour entrer dans le pays promis. Et de l'autre côté, il fait un parallèle donc, avec l'Église, en tant que peuple de Dieu, qui est guidée, elle, par Jésus-Christ. Et il met en parallèle donc, le repos que Dieu avait accordé au peuple d'Israël avec la promesse du pays promis, pardon, et le repos que Dieu propose aujourd'hui à tous les hommes. Et évidemment particulièrement à ceux qui l'acceptent. Et l'allusion qui est faite donc à un moment donné donc est fait allusion en fait à l'épisode de Massa et Meriba qui rappelle un moment de l'histoire du peuple d'Israël où le peuple avait tenté Dieu parce qu'il n'y avait pas d'eau. Je lis juste le passage, juste la fin, très courtement, Exode 17 verset 7. On a appelé cet endroit Massa et Meriba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce que les Israélites avaient cherché querelle à Moïse et avaient mis le Seigneur à l'épreuve en demandant « Le Seigneur est-il parmi nous, oui ou non ?» Et ce moment en fait est repris plus tard par David dans le psaume 95. Et je lis le psaume, juste le verset qui correspond, psaume 95 verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors justement, qu'est-ce que c'est le repos de Dieu? À quoi cela correspond-il? Alors en premier lieu, en fait, bon, vous imaginez, vous devez tout de suite penser au moins à une chose, c'est que le repos, bah, ça fait partie de la création. Le repos, c'est un temps que Dieu lui-même a marqué. C'est Dieu qui a inventé le repos, et le septième jour, Dieu s'est reposé. Genèse 2, versets 2 à 3, « Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Mais dans la Bible, en fait, le repos aussi a d'autres significations. J'ai trouvé un commentaire qui dit en fait ceci: le repos consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Aux mots hébreux Nouah et Shabbat, correspondent les mots délassement, rafraîchissement, cessation d'activité. Évidemment, donc tout de suite, en troisième lieu, on voit bien que le repos aussi, c'est le jour du sabbat, le jour sanctifié pour le peuple d'Israël, un jour dont l'infraction était même punie de mort. Exode 23, verset 12, « Pendant six jours, tu feras ton ouvrage, mais le septième jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. » Et plus loin, Exode 31, verset 15, « On travaillera six jours, mais le septième jour est le Shabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. » Donc le repos, dans la Bible directement, est placé comme un commandement de Dieu, et il revêt au moins deux sens. Déjà un sens physique et ensuite un sens spirituel en deuxièmement. Le sens physique, c'est qu'on voit que Dieu respecte tellement sa création qu'il va tenir compte des limites de la création, mais pas seulement des hommes, mais aussi des bêtes, mais aussi de la terre. Et en fait, le repos que Dieu avait institué se décline sous plusieurs formes dans la Bible. Alors, il y avait donc ce qu'on vient de voir, donc les repos hebdomadaires, mais il y avait aussi un repos mensuel, septième mois, qui comptait aussi. Et là, ça fait vachement rêver. Tous les sept ans, pour les cultivateurs, il y avait un an, gratuitement, un an d'année sabbatique, où le cultivateur était appelé à ne pas ensemencer sa terre, à laisser sa terre reposer pendant un an. Je ne sais pas si ça vous... Moi, ça me ferait bien envie, quoi. Mais pour les instits, ce n'est pas marqué. Et en fait, donc, une mise en jachère donc, des terres. Et l'aspect spirituel aussi, l'autre aspect spirituel, c'est l'institution du sabbat comme jour de repos. Et il y a donc cette dimension dans le repos aussi, une dimension dans les promesses que Dieu a accordées à son peuple. Et le sabbat, donc, comme je disais, est également pour Dieu le signe d'une alliance. Donc il y a encore c'est renforcé, le repos, donc c'est encore plus, c'est une alliance entre lui et son peuple aux yeux des autres peuples, le sabbat étant mis à profit pour établir et maintenir une communion entre Dieu et son peuple. Alors je cite Exode 31, verset 12. « Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous devez absolument respecter les jours de sabbat. En effet, le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à moi. Il vous rappellera que je suis le Seigneur et que vous m'appartenez en propre. » Et comme je le disais aussi, le repos est vite associé aux promesses qui sont contenues dans l'alliance que Dieu offre à son peuple, notamment celle d'être délivré de l'esclavage quand Dieu s'adresse à Moïse au buisson ardent. Donc il délivre le peuple d'Israël qui se trouve esclave en Égypte, et également cette promesse d'hériter du pays promis, d'entrer en Canaan, le pays du repos, le pays où coule le lait et le miel. Et en fait, ce qu'on peut retenir, en bref, j'ai fait un aperçu relativement simple en fait, de tous les aspects du repos dans la Bible, c'est que le repos accompagne l'alliance que Dieu fait avec l'homme. Il en est même une caractéristique quasiment essentielle. Et on peut tout de suite imaginer qu'en fait, on n'en connaît qu'une partie de ce repos, puisque le repos, dans son intégrité, dans son intégralité, je veux dire, dans son intensité au maximum, ne devait exister qu'en Éden, avant la chute de l'homme. Aussi, en quoi, on peut se poser la question, en quoi le repos doit-il être une réalité dans notre vie, nous de chrétiens, nous qui sommes croyants, qui faisons partie du peuple de Dieu. Alors je recite donc simplement le verset auquel on s'attachera, puisque donc ce passage et l'épître aux Hébreux, j'en ai fait l'expérience douloureusement et terriblement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et on s'attachera seulement à un aspect, j'omets le reste volontairement. On s'attachera donc au verset 9 jusqu'à 11. Je le cite, toujours dans la version français courant. « Ainsi, un repos semblable à celui du septième jour reste offert au peuple de Dieu, c'est-à-dire nous. Car celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. » Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. Et il y a aussi donc cette crainte de l'auteur que personne ne pense être arrivé trop tard pour entrer dans ce repos. Ça, c'est au verset 1 du chapitre 4. Nous, ce que nous savons, c'est que... Donc il y a un parallèle assez clair là entre l'alliance qui était faite avec le peuple d'Israël et l'alliance que Dieu fait avec les hommes d'aujourd'hui, a fait avec nous qui sommes chrétiens, avec nous qui, en tant qu'Église, qui sommes réunis par le fait que nous avons accepté un jour cette alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Et du fait de ce fait-là, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, de son pardon, de la vie éternelle, mais également du repos qui l'accompagne, du repos qui pour notre âme, quoi. Et il y a cette expression qu'on entre dans le repos comme on entrerait dans un pays. Et donc, le repos est prévu pour être une réalité dans notre vie de chrétien. Jésus lui-même dit d'ailleurs, et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est vraiment au centre, et c'est vraiment attaché à chacune des paroles importantes de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, encore une fois, pour vos âmes. » Le psaume 23 également, « Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer, dans de verts pâturages. » Et je reprends ce verset, « Celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail, ou alors de ses œuvres dans certaines traductions, comme Dieu s'est reposé du sien. » D'emblée, Dieu perçoit sa créature qui vit sans lui, il l'aperçoit comme quelqu'un d'actif, quelqu'un qui cherche, quelqu'un d'agité, quelqu'un qui lutte aussi, qui fouine, qui cherche, surtout quelqu'un qui n'a pas la paix. Et en fait, le contraire du repos, c'est tout le contraire, c'est l'activité, l'activisme. C'est toutes les choses qu'on peut faire pour s'occuper l'esprit, pour trouver le repos aussi. Et c'est vrai que lorsqu'on le regarde autour de nous, la société dans laquelle on vit est quand même marquée par l'activisme, l'agitation, par le bruit, par le zapping, j'ai envie de dire aussi, par la société de consommation qui prend, qui jette, il faut que ça aille vite. On est dans le loisir également, plus ça va avec les 35 heures, on modifie notre société pour être justement encore plus libre, pour encore faire plus de choses. On est également dans le culte de la performance, qui du coup on ne s'arrête jamais, un produit n'est jamais assez bien, on l'améliore au fur et à mesure. Et puis donc toutes ces choses montrent bien une quête de l'homme, de nos contemporains, une quête à laquelle nous sommes d'ailleurs sensibles, voire même mêlés. Hein. Et d'ailleurs c'est des fois un argument de vente de jamais nous laisser en paix. Là j'ai lu dernièrement, il y a une série télévisée qui s'appelle Lost, qui vient de sortir, qui paraît le samedi soir. Et en fait, le principe est tout simple, c'est aussi le principe qui régit toutes les séries, c'est qu'en fait on laisse toujours les gens, ils appellent ça le cliffhanger en anglais, c'est-à-dire qu'on laisse toujours les gens accrochés à la falaise, quoi. Dans un moment d'angoisse, on ne sait jamais ce qui va se passer après, et du coup, on rend les gens addicts, je sais plus, il y a un mot pour dire, qu'on rend les gens dépendants, voilà, on rend les gens dépendants, c'est jamais fini, quoi. Donc on est tout le temps dans cette spirale, quoi, hein, toujours en mouvement, quoi. Il n'y a jamais un moment où c'est complet. Sinon, on ne vendrait plus, forcément. Mais en fait, l'air de rien, toute cette agitation ambiante, en fait, elle soustrait l'homme à des moments de repos qui lui sont nécessaires. Alors bon, ça peut, de regarder une série, ça peut être un moment de repos aussi, mais c'est vrai qu'on évite, je vois bien que dans la société, on évite donc des moments de repos, parce que dans le repos, on évite face à soi-même, on évite à se poser des questions embarrassantes. Et personnellement, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup, éprouvé ma foi, et beaucoup éprouvé, on va dire, ma confiance en Dieu, dans des moments, justement, de repos forcé, entre guillemets. Des fois, la vie permet, comme ça, des moments... Les vacances d'étudiants, par exemple, c'est très très long. Ça dure 2-3 mois. Si on n'a pas un petit travail ou un truc pour s'occuper, on se trouve vite à gamberger, à réfléchir. Et c'est vrai que l'homme n'aime pas, l'homme sans Dieu, en tout cas, n'aime pas ces choses-là, puisque ce sont des questions embarrassantes. Et fatalement, pour lui, en fait, le repos, c'est aussi associé au vide, associé à la mort aussi, tout simplement, quoi. Et le verset donc qui est là pour nous, le verset 9 est là pour nous dire que celui qui fait alliance avec Dieu entre dans le repos de Dieu et il se repose de ses œuvres. Alors toutes les œuvres, ça peut être tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire tout ce qu'on essaye de faire pour s'occuper l'esprit, etc. Mais ça peut être aussi notre quête de paix intérieure. Il y a beaucoup de, il y a une soif de spiritualité qui est claire dans la société dans laquelle nous vivons. On voit aussi en tant que croyant, des fois aussi simplement notre quête pour gagner le salut, pour être bien, pour essayer d'être à la hauteur, pour essayer d'être parfait, pour essayer de gagner notre ciel. Il ne faut pas se voiler la face, on est tous passés par là, je pense, à un moment donné. Et la suite du passage dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, faisons en sorte qu'aucun de nous ne tombe en refusant d'obéir comme nos ancêtres. » Et là, il y a comme une opposition entre deux mots, entre « efforçons-nous » qui évoque plutôt quelque chose de dynamique, quelque chose de, un mouvement, quoi. Et puis, repos. Bon, le repos, on vient de le dire, ça évoque plutôt le relâchement, le fait d'être plus ou moins cool, excusez-moi le terme. Et il semble donc que le repos qui soit prévu par Dieu, peut ne pas être une évidence dans notre vie, et même qu'il faille peut-être nous assurer que nous sommes bien entrés dans ce repos promis par Dieu. Parce que, encore une fois, la Bible est des fois tellement claire, c'est blanc ou noir. L'alternative au repos, en tout cas au fait d'être entré dans le repos, bah, c'est le découragement. Il n'y a pas autre chose. C'est la révolte, comme le peuple d'Israël à Massa et Meriba, d'où ce parallèle qui est fait à ce moment-là. Massa, je rappelle, ça veut dire épreuve, tentation, et Meriba, contestation, querelle. Et là, je précise quand même qu'il s'agit du repos durable. Je ne pense pas au repos ou au fait d'un mal-être ponctuel, puisque bon, bah, on est sur la terre, il y a des fois des moments où on n'est pas bien. Donc, il ne s'agit pas de ça. Je fais plutôt allusion, et je pense que le passage fait aussi allusion à un repos durable, à une paix dans laquelle on peut avancer, à une paix à long terme, je veux dire. Et de même que l'eau manquait dans le désert, parce que c'est ça l'épisode, en fait, l'eau est venue à manquer dans le désert, et le peuple s'est révolté, et a crié sur Moïse, au point que Moïse a crié vers Dieu lui-même en disant « Dépêche-toi, parce que j'ai peur qu'il me lapide ». Vous imaginez donc un petit peu la pression qu'ils ont dû mettre sur Moïse, et ça a déplu à Dieu, qui a quand même répondu et donné de l'eau au rocher d'Horeb, quand Moïse a frappé le rocher. Et donc, de même que l'eau manquait dans ce désert, c'était une réalité, nous vivons aussi sur terre, nous vivons des épreuves, nous vivons des combats qui nous ébranlent, mais le fait est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre notre vie de chrétien d'une façon médiocre. Nous serions en permanence abattus, découragés, mécontents, comme les autres, j'ai envie de dire. Mais au contraire, il veut que nous soyons, que nous restions au bénéfice de son repos par la foi en lui, au nom de la communion que nous avons avec lui. Parce que c'est la seule façon que Dieu a prévu que nous traversions les épreuves. Alors ça semble facile pour moi de dire ça. Je sais que dans l'Église, il y en a qui traversent des épreuves. Et ça semble facile de le dire, mais c'est vrai que ça peut être aussi un soulagement et une promesse, c'est quelque chose sur lequel on peut se poser, un fondement essentiel. Le fait que Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous, que Dieu n'a pas prévu une autre façon que de traverser les épreuves, traverser le désert, les moments d'épreuve, en paix et dans le repos. Il n'est pas prévu qu'il en soit autrement. D'où la question, est-ce que nous, en tant que chrétiens, ce matin, est-ce que nous vivons cette réalité? Est-ce que notre vie chrétienne, est-ce que le repos de Dieu est une réalité dans notre vie de chrétien? Est-ce que nous sommes entrés dans le repos que Dieu nous offre? Ou alors, est-ce que nous sommes encore à la frontière de ce repos, de même que le peuple d'Israël est resté 40 ans à tourner dans le désert, à la lisière même, à deux pas d'être dans ce pays promis? Est-ce que nous ne sommes pas des fois à deux doigts d'y rentrer, à la frontière de ce repos, en train de manquer de repos? Et l'inverse du repos, eh ben on le connaît, c'est l'inquiétude, c'est l'angoisse, c'est le tracas, c'est le stress. Et je parle de toutes ces choses de façon, lorsqu'elles ont une existence durable dans notre vie. Et le verset est là pour nous dire que justement, ce repos est à nous, qu'il est disponible. C'est un petit peu comme... Vous savez, quand vous achetez une carte de crédit, en fait, il y a plein de petits trucs à lire qu'on ne lit jamais en général. Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à les lire. C'est écrit en tout petit, il y a plein de choses de loi et tout. Et en fait, ça nous dit quand même nos droits, justement, les choses auxquelles nous avons droit. Nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, de reprendre une assurance lorsqu'on fait un crédit, alors que le fait d'acheter avec une carte bleue, par exemple, c'est écrit en tout petit que, il y a déjà une assurance. Et c'est vrai qu'on est peut-être... Un petit peu comme ces gens qui montent des meubles Ikea, à vouloir un petit peu passer les étapes, un petit peu à doubler le truc, à mettre une vis avant une autre en se disant ça ira plus vite. Et puis en fait pour s'apercevoir que c'était prévu de cette façon parce que c'était la seule façon que le meuble soit monté en paix entre guillemets. Et j'ai l'impression que Dieu a prévu des choses pour nous et qu'il nous est facile en tout cas de partir à droite à gauche et d'en faire un petit peu, de dérouter, de nous dérouter, de nous perdre. Et le verset est là pour nous dire aussi que j'aime bien cette image qu'il faut entrer dans le repos. C'est dynamique, c'est quelque chose que nous avons à faire, et nous avons non seulement à entrer, mais à en saisir le repos par la foi, et même, après ça j'irai plus loin, à refuser de vivre autrement. Et c'est vrai que ce passage s'adresse aux hommes qui nous entourent, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas Dieu, il y a un jour qui est fixé, c'est aujourd'hui qui est rappelé. Il est rappelé qu'il ne faut pas endurcir notre cœur, qu'un jour peut-être, vous avez certainement entendu parler de Dieu. Et pour ceux qui connaissent Dieu déjà, il est bon de nous rappeler que justement, aujourd'hui encore, on peut aussi rater le repos, on peut manquer. Et qu'il est encore temps justement de se saisir de ce repos. Alors on arrive au troisième et dernier volet de cette réflexion. Comment entrer dans le repos de Dieu? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans le repos de Dieu? Et qu'est-ce qu'on peut nous retenir aujourd'hui de l'épisode de Massa et Meriba? Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous savons, ou si nous ne le savons pas, il nous est rappelé que nous vivons beaucoup, nous acceptons des choses par la foi. Et c'est vrai que nous commençons à vivre le repos de Dieu sur terre avec cette espérance qu'un jour nous continuerons à le vivre éternellement, un repos éternel dans la présence de Dieu. Et toutes ces choses que nous vivons sur terre, nous sommes appelés à les vivre par la foi, la foi qui est comme un lien, une antenne, un fil entre Dieu et nous. Et cette foi est l'ennemi du doute persistant, je parle. Et je parle aussi de l'incrédulité. Ces deux choses ne peuvent pas cohabiter dans notre vie de chrétien. Il y a même un commentaire qui disait que la foi chasse l'agitation et l'agitation chasse la foi. Et ce qui a irrité Dieu à Massa et Meriba, c'est que le peuple, justement, n'a pas cru. Le peuple a douté. L'incrédulité et l'agitation, l'inquiétude qu'elle produit, étouffent notre foi. Et des fois sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que nous vivons, est-ce que nous avons vécu des Massa et des Meriba? Comment vivons-nous, acceptons-nous les temps d'épreuve? Parce que c'était une épreuve, Massa et Meriba. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'eau. C'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'à ce moment-là, en plein désert, le peuple manquait d'eau? Comment ça se fait? Et c'est vrai que dans notre vie, ne soyons pas naïfs, nous avons des moments où nous manquons d'eau nous-mêmes. Nous étouffons, nous manquons littéralement de quelque chose. Mais c'est bien pour exercer notre foi. Dans Jacques, nous lisons Jacques chapitre 1, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Comment acceptons-nous ces temps comment vivons-nous ces temps d'exercice de notre foi? Encore une fois, ce qui a hérité Dieu, c'est que le peuple l'a remis en cause et l'a sommé d'intervenir comme des fois un enfant peut le faire avec ses propres parents. Moi, je suis père, en fait, depuis 4 ans et demi, bientôt. Et je m'aperçois souvent que je dis à ma fille, ça fait longtemps, je m'aperçois que souvent, je lui dis « attends ». Bon, ma fille, on l'a appelée Yael. Yael, ça veut dire chèvre sauvage. Alors, réfléchissez bien avant d'appeler votre fille Yael. Si j'avais su, je l'aurais appelée calme, paisible. elle a ses speed, mais souvent, je m'aperçois que je suis souvent obligé de lui dire « attends ». Et c'est vrai que je me rends compte que ça la place, du coup, devant un choix, ma fille, c'est le choix de me faire confiance ou alors d'aller se servir toute seule. Et plus elle grandit, plus bon, on voit justement qu'elle aussi entre ces deux choix. Et donc, des fois, elle va se servir toute seule, elle fait des choses seule, elle nous double, quoi. Et je m'aperçois, moi, en tant que père, et avec ma femme aussi, on s'aperçoit qu'on vit très mal ce choix. En fait, on n'aime pas qu'elle fasse ça, on n'aime pas qu'elle nous double, qu'elle fasse ce qu'elle veut. Parce que pour nous, et moi je pense qu'on le ressent comme ça, on pense qu'elle doute de nous. On pense que, quelque part, elle se place aussi à la même hauteur que nous, et elle nous double complètement. Et en fait, moi, j'estime que je suis son père, elle n'est pas au même niveau que nous. Et dans cette relation qui nous unit, pour le moment en tout cas, on est plus à même, nous, en tant que ses parents, de savoir ce qui est bon pour elle, plus qu'elle-même, quoi. Et je pense en fait qu'il y a un petit peu pareil avec Dieu. Je pense que souvent Dieu peut nous dire attends, ou Dieu nous place des fois en situation où on est en attente, on est en situation d'arrêt comme ça. Et je pense, en tout cas pour ma part, je n'aime pas ça du tout. Et la tentation de doubler, de contester, de ne pas être content, de concevoir des sentiments, des états d'âme négatifs, de la frustration, des choses comme ça, est là. Et il y a une tentation un petit peu de laisser cours à ces choses-là. Et je pense donc que nous connaissons donc des temps de Massa et Meriba. Il y a aussi un aspect auquel nous devons vraiment faire attention en tant que chrétiens, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte, c'est justement les mots que l'on emploie, les mots qui sortent de notre bouche à ces moments-là. Et je reprends l'épisode donc de Massa et Meriba dans l'Exode 17, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, vous voyez, donc c'était une réalité, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Vous avez vu que ce sont des mots très forts d'entrée. Bon, c'est vrai que c'est très oriental aussi, mais tout de suite, on voit au pire, voilà ce qui se passe, on est venu là pour mourir. Alors que deux chapitres avant, en fait, le peuple d'Israël vient juste de vivre une délivrance hors du commun, comme peut-être jamais on en vivra nous, à moins que le Seigneur revienne de notre vivant, puisque le peuple d'Israël est sorti ni plus ni moins que à pied dans la mer des Joncs, et que les Égyptiens sont morts, eux, noyés. Et voilà comment sont sortis les Juifs, et voilà comment ils réagissent deux chapitres plus loin. Ils ont vite oublié, mais je ne les blâme pas, je comprends. Et donc, nous devons faire attention aux mots que nous employons parce qu'ils conditionnent notre esprit, ils conditionnent notre façon d'être et tout. Et c'est vrai que lorsque l'apôtre Paul nous appelle à prier et à nous décharger sur Dieu, Je pense qu'il favorise justement le fait que notre esprit est gardé du coup par nos mots. Si nous prions, si nos mots déjà sont gardés, s'ils sont revêtus d'un aspect beaucoup plus saint, on se perd moins facilement. Et nous devons également nous apprendre à nous méfier de nos états d'âme. Je parle évidemment des états d'âme durables. On n'est pas des machines, je sais bien, et Dieu le sait, et d'ailleurs il accepte que nous soyons fatigués, que nous soyons lassés, mais c'est à nous de lui faire connaître ces choses-là. Donc je parle des états d'âme durables. Alors je pense à la fatigue durable, la frustration, le mécontentement, la mauvaise humeur chronique, parce que ces choses-là, en fait, nous éloignent, nous agitent. En étant de cette façon, en étant fatigué ou frustré, on ne peut pas vivre bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va trouver des parades, tout seul. Alors on va s'agiter, chercher des choses, des machins, etc. Et honnêtement, sans vouloir me mettre en avant du tout, mais je connais bien ces choses-là, parce que je suis quelqu'un d'assez impétueux, assez sanguin, quoi. Et je sais que c'est vraiment comme ça que ça marche. Quand on n'est pas bien, ben on cherche, on se disperse dans un tas d'activités qui nous éloignent encore plus, qui favorisent encore plus l'éloignement du repos, quoi. Ça, c'est vrai. Et donc, ces états d'âme nous agitent et ils nous éloignent de la confiance qu'on devrait avoir en Dieu, de la quiétude, du repos qui est prévu par Dieu. Et donc, comme je disais, souvent, ces sentiments sont le moteur d'autres actions. Nous sommes appelés également à lutter et à combattre pour ne pas laisser place à nos inquiétudes et nos soucis dans notre vie. Au contraire, nous pouvons nous décharger de tous nos soucis. Vous connaissez ce passage. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et le passage aussi dans Philippiens qui nous dit de faire connaître à Dieu tous nos besoins par des supplications, les actions de grâce. Et puis, le repos, c'est aussi encore de nous inquiéter de rien. Et là, c'est Jésus qui parle lui-même, Matthieu 6, 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Un dernier passage dans Ésaïe 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et en dernier lieu, pour entrer dans le repos de Dieu, nous sommes appelés à prendre du temps, à savoir nous arrêter, à savoir imiter Dieu dans ce sens-là, où Dieu lui-même s'est arrêté alors qu'il est tout puissant, qu'il a le temps, il est omniscient. Et Dieu lui-même s'est arrêté pour contempler sa création. Et nous-mêmes, nous devons apprendre à nous arrêter pour justement contempler ce que nous avons en poche, ce que nous avons avec l'alliance de Dieu, prendre le temps justement de lire et de considérer tout ce à quoi nous avons droit. Et c'est vrai que le peuple d'Israël avait le sabbat pour ça, c'était un jour sanctifié, nous avons le dimanche, et dans la nouvelle alliance, nous avons évidemment n'importe quel moment, puisque c'est par esprit que nous adorons Dieu. En conclusion, donc, je voudrais simplement rappeler donc les différents aspects du repos. Alors, le repos est au centre de toutes les promesses de Dieu, au centre de l'alliance que Dieu fait avec nous, avec tous les hommes. Donc, c'est ce qu'il propose aux hommes qui n'ont pas encore fait cette alliance avec lui, et c'est ce qu'il nous propose à nous qui avons accepté cette alliance. Le repos est une réalité lorsque nous nous réconcilions avec Dieu, lorsque nous sommes en communion avec lui. Nous sommes appelés, et fortement appelés, à entrer dans ce repos. C'est un pas de foi qui est notre ressort. Ce sera toujours à nous de croire, puisque Dieu est Dieu, et malgré le fait qu'il s'est rapproché de nous, Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, comme le dit l'Ecclésiaste, et au-delà de nos attentes, de tous nos doutes, de tout ce que nous pouvons vivre, Dieu et Dieu ne pourront pas toujours tout comprendre, mais nous sommes de toute façon appelés à entrer dans ce repos par la foi. Seul le péché nous sépare de Dieu et de son repos, l'incrédulité persistante, et le péché en général. Mais Dieu a pourvu, a donné la solution pour le péché, c'est Jésus-Christ, par qui nous avons accès à Dieu. Jésus-Christ à qui nous pouvons confesser nos fautes, qui nous accorde le pardon. Et là, je serai un peu manichéen moi aussi en disant que l'absence de repos durable n'est pas normale, entre guillemets, pour un chrétien. Nous sommes appelés à chercher ce qui est derrière cette absence de repos. Pourquoi ne sommes-nous pas en repos? Pourquoi la paix n'est-elle pas là? Peut-être nous avons mal compris des choses, peut-être nous manquons de foi. Dans tous les cas, Dieu est là, nous attend, disponible. Ça fait partie, c'est fait pour, c'est là, c'est pour nous. Et Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire, laquelle commence, d'ailleurs la victoire commence peut-être simplement par être calme dans la tempête. Lorsque nous sommes calmes dans la tempête, est-ce que ce n'est pas une victoire énorme? Lorsque nous sommes quiets. Et donc nous sommes appelés à vivre une vie de victoire, et à refuser de vivre chichement, j'ai envie de dire, chichement notre vie de chrétien. La médiocrité n'est pas prévue dans notre vie de chrétien, parce que Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Rappelons-nous de Massa et de Meriba, pour ne pas offenser notre Dieu par notre manque de confiance et l'absence de repos qui caractérise ce manque de confiance. Il est rappelé dans le passage, que vous pourrez lire au chapitre 3, de ne pas endurcir notre cœur, ou encore de ne pas refuser de comprendre. Donc nous sommes appelés aussi à la vigilance. Et en dernier lieu, sachons nous aménager donc des moments de repos, des moments d'arrêt, pour entrer en communion avec Dieu, entrer dans le repos qu'il a prévu pour nous.